les aimes tes cours de philo?
C'est vraiment très enrichissant.
Ça demande encore un peu de pratique.
Bonjour Aurélien.
Bonjour Adèle.
Comme chaque jour, vous êtes avec nous pour votre question philo du jour. La voici. La philosophie est-elle un long fil d'or?
On sait que c'est toujours le confinement, donc on en est réduit au tourisme mental. Et donc j'ai fait du tourisme mental en allant revisiter en pensée le beau musée de la Renaissance du château des Coins. Et donc je ne suis pas retourné auprès de la fantastique nef de Charles Quint, un vaisseau mécanique à rendre jaloux le plus sophistiqué des Lego techniques d'aujourd'hui, mais ce que j'ai revu en pensée, c'est une machine plus muette et plus énigmatique qu'on trouve là-bas, le banc d'orfèvre d'Auguste de Saxe. Alors ce banc d'orfèvre, c'est quoi? C'est une longue barre de bois sur laquelle sont accrochés, un peu comme sur un établi incroyablement luxueux, différents outils, une crémaillère et une manivelle. En fait, il s'agit d'une tréfileuse, une machine à étirer l'or pour en faire de longs fils. Alors je me suis souvenu de la métaphore célèbre de Goethe sur le fil rouge que la marine royale tressait dans ses cordages pour que le moindre morceau en reste identifiable. Et je me suis dit que ce fil d'or, invisible, devenu pur esprit, c'était celui peut-être de la pensée allemande. Et j'ai eu un peu de nostalgie pour cette époque, pas si lointaine, où une fois Descartes passé, l'histoire de la philosophie en France se confondait avec un long et romantique voyage en Allemagne, le plus mystérieux des voisins de la France, où on aurait découvert un filon d'or nommé philosophie.
Est-ce que vous voulez nous dérouler un peu ce fil ?
C'est presque comme un conte de Grimm. Alors ça commence avec la découverte par Leibniz d'un œuf d'or appelé la monade, reflet complet de l'univers. Mais la poule d'or de ce système métaphysique complet sera assassinée très vite par Kant, le Rumpelstiltskin de cette histoire, qui montrera quel lourd tribut la paille d'or de la métaphysique doit payer à la vérité. Hegel viendra heureusement lever la malédiction et relancer l'histoire de la métaphysique en découvrant que la malédiction d'une Rumpelstiltskin n'était qu'un moment de l'histoire de l'esprit, avant que Marx, son plus brillant élève, vienne briser tous ses contes et toutes ses métaphores, à l'exception de la principale d'entre elles, l'esprit, devenu pour Marx le capital lui-même, eh bien, en dernier lieu, et presque littéralement, un fil d'or. On en arrive enfin tout au bout de cette histoire, aux féeries benjaminiennes des passages parisiens, dorées à la feuille d'or, comme une version reconstituée mais trompeuse de la monade primitive, des passages parisiens, paradis de la marchandise, comme déambulation hallucinée à l'intérieur du fil d'or. Et soudain, le monde moderne où tout est accessible, mais sous la forme tronquée du commerce, où tout est intelligible et menteur à la fois, ressemble pour nous à la malédiction de Midas. Nous voudrions toucher encore des objets extérieurs, nous rafraîchir la main dans une eau nouménale, et nous ne le pouvons plus. Le triomphe de la philosophie est total, mais ressemble à un empoisonnement. Et j'ai revu, justement, mon banc d'orfèvre devenu fou, devenu presque vivant, le banc d'orfèvre d'Auguste de Saxe. C'était dans la vidéo d'une machine qui, dans une usine BMW, tissait à toute vitesse les bobines des moteurs électriques. On y comprenait absolument plus rien.
Ça, c'est une manière de dire que la philosophie aurait finalement perdu le fil.
Alors le fil tenu par le fameux nain Rumpelstiltskin, j'adore le dire, de la légende, nain qui n'a jamais travaillé aussi vite, mais dont on aurait oublié le nom et dont on serait, à cause de cela, condamné à rester sous son charme. Alors l'esprit moderne, tel qu'il m'est apparu comme créature primitive, comme mince fil d'or dans la machine-outil primitive de la Renaissance au musée des Coins, était devenu, entre les bras de ce robot de BMW, un enchantement qui dépassait largement les compétences même du meilleur des philosophes allemands d'aujourd'hui. Car impossible de ne pas entendre, tout au bout de cette légende dorée, la perplexité d'un Adorno, par exemple, l'un des derniers génies philosophiques de l'Allemagne. Adorno, tout au bout de notre fil, le premier des philosophes allemands à refuser explicitement le secours ambigu d'une philosophie systématique. Adorno qui témoignait modestement de son incapacité à démêler vraiment les fils de cette grande légende commencée à la Renaissance. Légende qui était venue s'achever sous ses yeux et de la plus cauchemardesque des façons en Allemagne au milieu du XXe siècle.
Alors Aurélien, il vous reste quelques secondes pour terminer votre chronique. Est-ce que vous voulez nous conclure sur le fait que la philosophie serait un long fil d'or ?
En fait, ce qui est passionnant avec cette histoire d'Adorno, c'est qu'on a l'impression que tous ces philosophes se rendent compte un moment que leurs étudiants, ce sont simplement des bourgeois réifiés, et ils se mettent à regarder eux-mêmes leurs étudiants en philosophie et leur propre rêve de jeunesse d'avoir voulu faire de la philosophie comme quelque chose qui relève peut-être d'une sorte de fantasmagorie plus grande qui serait le monde moderne en totalité, et ils ne peuvent plus se contenter de faire de la philosophie comme ça. Ils sont obligés de tirer des nouveaux fils, et ces fils, ça va être les fils de l'école de Francfort, les fils de la marchandise devenue folle, les fils du capitalisme réifiant, etc. Et la philosophie, à ce moment-là, de façon très spectaculaire, devient presque impure, et donc le fil d'or s'amalgame peut-être de toute autre chose.
Merci beaucoup Aurélien Bellange d'avoir déroulé le fil de cette bobine.